Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Hong Kong, le retrait du projet de loi d'extradition suffira-t-il à apaiser les tensions?
Eh bien c'est ce que veut croire en tout cas la presse chinoise ce matin, notamment l'éditorial du China Daily qui écrit que les manifestants à Hong Kong n'ont plus de prétexte pour recourir à la violence puisque la chef du gouvernement local, Carrie Lam, a retiré ce projet de loi autorisant les extraditions de citoyens vers la Chine. Texte à l'origine de plus de 3 mois de manifestations, de répression policière et de crise politique. Carrie Lam a donc dit hier retirer ce projet pour, je la cite, apaiser complètement les inquiétudes de la population comme si c'était le seul grief des opposants. Bonjour Éric Florence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez jusqu'à il y a quelques semaines encore, voire quelques jours, directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Vous venez tout juste de rentrer de cette longue mission de 4 ans. Vous êtes chargé de cours à l'université de Liège. Alors Éric Florence, Carrie Lam m'avait dit pendant une conversation privée avec des hommes d'affaires qui avaient fuité dans la presse il y a 2 jours qu'une fois qu'une question atteint une dimension nationale, la marge de manœuvre du chef de l'exécutif à Hong Kong est très 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 limitée. C'était ses mots donc. C'était un aveu par anticipation que ce n'était pas elle qui allait prendre la décision de retirer ce projet de loi.
Non, donc ça montre, enfin, en tout cas ça indique une contrainte assez forte et une dépendance très forte donc, du gouvernement de l'exécutif hongkongais par rapport aux autorités centrales à Pékin. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la crise politique actuelle reflète et met en lumière les failles du. Un pays de système dans le sens où ce principe d'un pays de système, c'est un haut degré d'autonomie du gouvernement de Hong Kong et aussi les Hongkongais qui gouvernent Hong Kong. Or, vraiment, là, je pense qu'à Hong Kong, en particulier, plus personne ne considère que l'exécutif hongkongais a vraiment son mot à dire et que c'est quelqu'un qui décide.
Le principe un pays deux systèmes, c'est celui qui régit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 97, mais acté 13 ans plus tôt, en 84, par le premier ministre chinois de l'époque, Zhao Ziyang et Margaret Thatcher. Aujourd'hui, les opposants disent qu'on est plutôt dans un pays, un système 2 ou 3, c'est ce que dit par exemple le parti Démocisto. Pourquoi Pékin aurait pris cette décision? Il n'avait pas le choix en fait, c'était ça ou intervenir militairement?
Alors l'intervention militaire, on peut penser que bien qu'on ne puisse pas dire qu'elle soit impossible, on peut penser qu'elle reste quand même hautement improbable, étant donné que les coûts en termes d'image pour la Chine seraient sur le plan international énormes. Ce serait assez catastrophique parce que bon, en plus la Chine depuis pas mal d'années construit une image d'une puissance raisonnable à l'international, tant sur le plan économique que politique. Et une intervention serait tout à fait dommageable sur ce plan-là. Donc je pense que ça reste quand même très peu probable. Alors la question, c'est évidemment que l'exécutif hongkongais est extrêmement limité dans ses possibilités de négociation, étant donné que le Parti communiste chinois a mis la barre très haut sur le plan interne, c'est-à-dire en Chine même, au niveau de la propagande, et donc d'une interprétation de manifestations étant essentiellement fomentées par des puissances extérieures et donc finalement une logique assez binaire en quelque sorte.
Comment vous interprétez les mots de Carrie Lam quand hier dans une lettre aux parlementaires de Hong Kong elle écrit « We may then mend the fence », donc ce qu'on pourrait traduire en français par « il faut qu'on répare les barrières » ou « qu'on apaise les tensions ». C'est une phrase qui a été très commentée, comment vous l'interprétez-vous?
Mais écoutez, en fait, déjà depuis plus de 2 mois, les tensions sociales, économiques, politiques, qui sous-tendent finalement la crise actuelle ont été quand même martelées par la presse, par les réseaux sociaux, et y compris par ses propres conseillers. Il faut rappeler que le 25 août dernier, par exemple, Carrie Lam a réuni 19 personnes afin de discuter des meilleurs moyens de sortir de la crise actuelle. Et plus de la moitié ont demandé à Carrie Lam de mettre en place une commission indépendante et le retrait du projet de loi. Alors c'est vrai que dans sa déclaration d'hier, dans le quatrième point, elle parle de la mise en place d'une plateforme avec des académiques et des personnalités pour explorer les causes du malaise actuel. Et elle elle cite effectivement les causes économiques, sociales, politiques, mobilité sociale bloquée, la question de la terre et du logement, etc., y compris la réforme du système politique. Donc on peut voir dans ces déclarations finalement une manière de dire à la population congolaise « nous vous avons entendu ». Après, est-ce que ça peut être efficace par rapport à un apaisement? On peut en douter quand finalement le mouvement est passé quand même d'une opposition au projet de loi davantage vers une dénonciation des violences policières et aujourd'hui véritablement un affrontement avec la police et aussi une demande de réforme politique par rapport à un système politique qui n'était très peu représentatif en fait.
Ouais, ce sont des revendications qu'expriment aujourd'hui les opposants. Cette commission d'enquête sur les violences policières, l'amnistie des manifestants susceptibles d'être poursuivis en justice. Je rappelle que plus de 1100 personnes ont été interpellées d'après Pékin. D'ailleurs, ce sont les chiffres officiels. Et puis surtout l'élection pendant les manifestations. Et puis surtout l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif. Jusqu'où peut aller Carrie Lam dans ce qu'elle considère comme une main tendue envers ces manifestants?
Je pense que la marge de manœuvre, encore une fois, est extrêmement limitée, en tout cas à court terme, très certainement, et notamment, encore une fois, parce que la barre est mise assez haut en interne au niveau de la Chine, au niveau de la propagande, par rapport à une caractérisation des manifestants comme des émeutiers et comme étant véritablement une menace à l'ordre et à la loi et au système, au principe d'un pays de système. D'ailleurs, Carrie Lam, dans sa déclaration d'hier, on voit bien que c'est une déclaration qui essaie de jongler entre une position finalement d'équilibriste, hein, entre d'une part, nous vous avons entendu, et d'autre part, reprend en fait la stratégie de Pékin. Donc la marge de manœuvre sur le court terme semble extrêmement étroite.
En 2014, il y avait eu un grand mouvement évidemment aussi populaire à Hong Kong, le mouvement des parapluies, des milliers de personnes qui avaient manifesté contre le projet de Pékin, cette fois de limiter la portée du suffrage universel, pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong. Deux ans plus tard, en 2016, il y a eu des élections et de jeunes localistes, comme on dit, ont été élus, des opposants au régime de Pékin, mais disqualifiés aussitôt après intervention de Pékin. Donc de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive à Hong Kong, la Chine finit par intervenir, Pékin finit par s'immiscer dans les affaires.
Écoutez, en fait, quand on regarde historiquement depuis 1989, les différentes crises qui ont secoué en quelque sorte Hong Kong, 1989, 2003, 2011, 2012, 2014, à chaque fois, ça a été suivi d'un resserrement de la part des autorités centrales. Et il faut quand même souligner que depuis 2014, non seulement les problèmes politiques et socio-économiques qui étaient à la base du mouvement de 2014 se sont aggravés depuis, y compris sur le plan socio-économique. Donc quelque part, je veux dire, les causes profondes sont toujours là.
Alors, selon cette déclaration sino-britannique que vous avez citée tout à l'heure de 1984, Hong Kong peut garder jusqu'en 2047 ce système politique, économique et juridique distinct avec un, entre guillemets, c'est dans les textes, degré élevé d'autonomie. Mais quand Deng Xiaoping a signé cet accord avec Margaret Thatcher, est-ce qu'il avait dans l'idée que Hong Kong devienne comme une ville chinoise ou que n'importe quelle ville chinoise devienne comme Hong Kong ?
Très difficile de répondre par rapport à la fin de votre question, mais pour ce qui est de 2047, on peut peut-être dire deux choses. D'une part, c'est que on peut envisager qu'il y ait une période de transition avant 2047 pour faire en sorte que en 2047, Hong Kong ne perde pas toute spécificité, parce que ça restera probablement encore utile pour l'économie chinoise. Par contre, il est probable, il est à craindre que Hong Kong, avant 2047, n'ait perdu ce qu'il a défini en termes de liberté politique, ou en tout cas l'essentiel de celle-ci, tant on peut penser que les tensions et les conflits à venir risquent d'être quand même à répétition, parce que les causes profondes je pense, ne sont pas adressées, en fait.
Donc vous pensez, par exemple, que des jeunes comme Joshua Wong, dont on a beaucoup parlé dans ce mouvement, et qui s'était fait connaître dès 2012 alors qu'il n'avait que 14 ans, qui avait à l'époque déjà réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes contre un programme dit d'éducation patriotique, des jeunes comme Joshua Wong, eux aussi ont une, disons, une carrière d'opposant, à votre avis, limitée?
Par rapport à Joshua Wong, je dirais que ma remarque était plus par rapport aux libertés publiques de manière générale, et pas spécifiquement par rapport à des leaders politiques. Mais c'est vrai que Joshua Wong, dans ce mouvement-ci, a peut-être un public moins important. Il a toujours une certaine aura au niveau international, mais je dirais que sur le plan de ce mouvement, c'est un mouvement, comme vous le savez, qui est sans leader, assez morcelé avec tout un ensemble de groupements, mais qui reste quand même assez remarquablement unis sur le plan notamment de l'action, qui passe sur le plan des idées, parce qu'il y a quand même, je dirais, un vaste éventail de positionnement. Mais néanmoins, je pense que c'est un mouvement qui reste assez uni sur le plan de l'action, mais pour le futur, on peut craindre effectivement pour les libertés publiques
en camp. En 2047, Joshua Wong n'aura que 50 ans après tout. Merci beaucoup, Eric Florence, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.